Bonjour Monseigneur Ulrich.
Bonjour Élise.
Vous êtes l'archevêque de l'archidiocèse de Lille. Avec vous, on va parler d'un certain nombre de choses, notamment la conférence des évêques de France qui a élu son nouveau président la semaine dernière. C'est donc Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, 57 ans, qui succède à Monseigneur Pontier. Une nomination qui vous réjouit?
Eh bien, on s'est vraiment tous entendus. Je crois, assez clairement dans la conférence, dans l'assemblée, pour que qu'il y ait un rajeunissement tout à fait de l'équipe dirigeante de cette conférence. Monseigneur Pontier a toujours dit « je ne suis pas le président des évêques, je suis le président de la conférence des évêques hein, ». C'est-à-dire, je ne prends pas la place, je n'ai pas le président de la conférence des évêques, c'est pas comme s'il y avait un pape en France. Enfin, c'est simplement quelqu'un qui aide les évêques à travailler ensemble et qui leur permet de faire une assemblée, une conférence un peu cohérente, et qui leur permet d'affronter ensemble des difficultés ou de construire ensemble
également
des projets.
Une ligne directrice de travail, alors, les priorités de travail.
Mais ça, c'est l'assemblée qui décide de ces, parce que nous sommes dans un régime d'assemblée de ce point de vue, c'est l'assemblée qui le dirige, et le président et l'équipe de présidence aident l'assemblée à écrire ses projets, enfin l'aide à formuler la direction dans laquelle... Alors on voit bien qu'aujourd'hui, étant donné la difficulté qu'on traverse, il faut qu'il y ait un projet un peu commun. Et donc il a paru vraiment très nécessaire de rajeunir de presque 20 ans cette équipe de présidence, puisque vous parlez de Monseigneur de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims, mais il y a aussi donc Monseigneur Blanchet.
Ça va changer beaucoup de choses.
Monseigneur Blanchet Monseigneur Le Borgne.
Beaufort. Vous comptez sur cette jeunesse pour changer ou secouer un peu les choses.
Ça dit quelque chose. Ça dit la volonté de faire bouger. Ce qui ne veut pas dire que jusqu'à présent il ne s'est rien fait, parce que depuis 19 ans que je suis évêque, on a commencé quand même dès 2000 à prendre en considération ce sujet des abus sexuels. Et on a découvert un champ immense de responsabilités. J'ai déjà eu l'occasion de dire cela.
Et on y reviendra avec
un champ immense et un
ce conseil pastoral diocésain pastoral.
On a fait beaucoup de choses dès 2000. On a renforcé un certain nombre de choses à partir de 2010. On a relancé en 2016. En novembre 2018, on a à la fois demandé la création d'une commission indépendante présidée par l'ancien vice-président du Conseil d'État, Monsieur Jean-Marc Sauvé. Et puis, nous avons évoqué quatre sujets sur lesquels nous voulions avancer pour essayer de... ça n'est pas l'équipe rajeunie qui fait ce tournant, parce que c'est du temps de l'équipe précédente, précédente encore actuelle jusqu'à la fin du mois de juin, avec Monseigneur Pontier, que ces décisions-là ont été prises.
Sauf que des décisions sont prises rapidement aussi, à peine élu, alors qu'il va prendre ses fonctions le 1er juillet.
Oui.
Il annonce quand même, Monseigneur de Moulin-Beaufort, un geste financier de réparation pour les victimes de pédophilie.
Il n'a pas décidé ça depuis qu'il est élu président et pas encore en activité. C'est l'Assemblée qui a décidé cela au mois de novembre dernier. Voilà. Nous avons eu quatre sujets que nous voulons mettre en travail sur ce sujet. Il y a la question d'un geste financier. Voilà. Il y a la question de...
Qui devrait être mise en opérationnelle en novembre prochain.
Le plus vite possible. Voilà. La question de la mémoire des choses, la question de l'accompagnement des agresseurs et la question de l'écoute approfondie des victimes. Hein. Donc ces quatre sujets, quatre groupes de travail qui sont en train de préparer de futures décisions. Voilà. Donc... c'est des choses que nous avons déjà mises en route depuis un certain temps. Voilà.
des choses mises en route au niveau local également, oui, avec ce conseil diocésain pastoral qui aura lieu le 2 mai prochain, 150 personnes présentes, pour parler, prendre à bras le corps, si je puis dire, cette question des abus sexuels au sein de l'Église. Que va-t-il se passer ce 2 mai précisément ?
Alors, nous avons donc invité à ce conseil les personnes de la cellule psychologique là, qui s'appelle URSAV, qui est donc une cellule de l'hospitalisation publique, qui est une cellule psy, voilà, avec un certain nombre de collaborations de psychiatres, psychologues, etc., psychothérapeutes, qui à la fois est capable d'accompagner, d'apporter du soin aux personnes, aux agresseurs, hein, qui, et notamment ceux qui sont confiés par la justice, mais qui est aussi professionnellement dédié à l'accueil des victimes, et cela se fait. Voilà. Et donc, c'est cette cellule avec laquelle nous sommes en convention depuis plus de 2 ans. Chaque année, nous faisons le point avec cette cellule pour savoir le nombre de gens qui sont venus, les raisons pour lesquelles on est venu, hein, c'est-à-dire que ça nous instruit aussi de savoir cela en retour. Et donc cette équipe va venir intervenir dans ce pour faire comprendre le travail qui est fait grâce à cette cellule.
Enfin, c'est une assemblée de 150 personnes. Oui. Quelles sont les personnalités qui constitueront cette assemblée
de 150 personnes ? C'est donc à la fois les membres du conseil presbytéral, les prêtres, hein, des prêtres, voilà, du conseil des religieuses, du conseil des diacres, du conseil des animateurs en pastoral. Et puis ce sont des responsables diocésains, des responsables de mouvement laïque, des représentants des paroisses et des doyennés, et de la vie, oui, j'ai dit la vie religieuse. Mmh. Voilà. Donc, ce sont évidemment des gens qui exercent des responsabilités dans le diocèse, mais qui sont convoqués 2 fois par an sur d'autres sujets. Mais
qu'est-ce
là, j'ai rajouté un conseil exceptionnel sur ce thème précis. Voilà.
Qu'est-ce qu'il va leur être dit, Mgr Ulrich, durant cette journée ?
D'abord, il va leur être rappelé ce que nous avons fait, notamment ce que j'ai fait personnellement depuis 11 ans sur ces sujets, puisqu'il y a eu malheureusement plusieurs affaires. Je veux dire, tout le monde sait ce que j'ai fait. Ça a été souvent public, ça a été même dans les journaux. Enfin, voilà, j'ai pris mes responsabilités, mais c'est bien de les rappeler. Deuxièmement, nous allons prendre le temps d'écouter ce que je disais, le témoignage de cette cellule d'écoute et de veille sur ces sujets. Et puis, ensuite, les membres du conseil seront invités à partager à la fois leurs ressentis propres, ce qu'ils entendent de toutes les personnes qu'ils rencontrent. Bon, et puis...
C'est rappelé également le cadre juridique.
Le cadre juridique aussi, bien sûr, et le cadre canonique. Mmh. Mais l'important, c'est que nous puissions prendre conscience ensemble des choses et nous dire peut-être qu'il y a des façons de vivre dans l'Église qui doivent être modifiées, transformées, converties.
On entend beaucoup de choses, les langues se délient sur ce
bien
sujet,
sûr,
hein, des abus sexuels au sein de l'Église, et notamment les propos du pape Benoît XVI, qui lui fait une comparaison entre ces actes de pédophilie au sein de l'Église avec la libération sexuelle des années 60, des propos qui heurtent un certain public. Vous comprenez que ça puisse heurter ?
Alors. Je voudrais savoir exactement ce qu'il y a dans ce texte, qui est un texte d'une quinzaine de pages et dont on ne m'a cité jusqu'à présent que 3 lignes, d'une certaine façon. Et donc, c'est un peu difficile de savoir exactement ce que le pape émérite a voulu dire à travers cela. J'entends dire même qu'on soupçonne que ce ne soit pas directement de sa plume. Donc, il y a une certaine prudence à avoir sur ces sujets. Je n'ai pas le sentiment que ce que j'ai entendu de ce que l'on m'a rapporté de ces propos soit vraiment très contradictoire avec ce qu'on essaie d'expliquer en ce moment et de se dire que probablement dans l'Église il y a eu un relâchement possible, c'est-à-dire une inattention plus grande qui a été portée. Mais il y a tellement eu d'autres considérations sur comment dire, sur le silence imposé, sur le silence des victimes elles-mêmes qui n'osaient pas parler, qui étaient même tétanisées devant le mal qui leur a été fait, qu'elles ont dû le garder pendant des années et des années, des dizaines d'années parfois. Et dans une grande souffrance, manifestant, hein, on dit les grandes douleurs sont muettes, hein, je crois que c'est vrai aussi. Et donc on ne peut pas négliger tout cela et on ne peut pas oublier la complexité du problème lui-même, qui suppose évidemment une attention de la part de tous, des responsables de l'Église, des familles, etc. Donc il y a une grande attention qui est mobilisée. Je ne pense pas qu'on puisse réduire cette question à un conflit entre le pape actuel et son prédécesseur, que l'on puisse réduire cette question uniquement à la modification des mœurs depuis les années 65-68, les années 60, disons. Je veux dire, tout ça ne commence pas en mai 68. Hein, voilà. Je ne crois pas qu'on puisse réduire à quelques phénomènes comme cela. Il y a eu une espèce de généralisation. Et puis, ce qui est vraiment nouveau, c'est la révélation. Parce que, malheureusement, les abus sexuels, c'est pas une chose bien nouvelle dans la vie des sociétés.
Monseigneur Ulrich, il nous reste une minute pour aborder cette semaine sainte qui s'annonce. Très rapidement, quel message vous avez envie d'adresser pour cette Pâques 2019 aux habitants du diocèse de Lille?
Eh bien, je crois pouvoir toujours dire, je le dis avec le pape François qui vient d'écrire à la suite du synode des jeunes, il dit « N'oubliez pas le message principal de l'Église, quoi qu'il en soit de ce qu'elle est, de ce qu'elle fait, mal, etc. Le message principal de l'Église, c'est le Christ vit aujourd'hui et il est venu pour sauver les hommes des impasses dans lesquelles ils se mettent eux-mêmes et des douleurs et des souffrances dans lesquelles ils sont plongés. Voilà, le Christ vit et il est venu nous sauver. Et c'est cela que nous tous, nous pouvons entendre. Je sais bien qu'il y a des gens qui disent le langage de l'Église n'est plus crédible, mais qu'on entende au moins le langage de l'Évangile, qui est celui du Christ qui sauve.
Merci beaucoup, Monseigneur Ulrich, d'avoir été avec nous cette semaine pour Entretien avec un évêque. Je rappelle que vous êtes l'archevêque de l'archidiocèse de Lille.
Merci.